Quatrième acte, l'horloge de sûreté. L'action se passe maintenant à Neuchâtel. C'est l'agréable mois d'avril, l'agréable lieu où nous nous transportons nos lecteurs et l'étude d'un notaire. L'agréable personne que nous y trouvons, c'est le notaire lui-même, beau vieillard au teint vermeil, le premier notaire de Neuchâtel, universellement connu dans le canton, Maître Voig. Par sa profession et ses qualités personnelles, Maître Voig est un citoyen populaire. Les nombreux services qu'il a rendus et ses originalités aussi nombreuses que ses services ont fait de lui l'un des personnages les plus fameux de cette jolie ville de Suisse. Sa longue redingote brune et son bonnet noir ont pris rang parmi les institutions du pays. Sa tabatière n'est pas moins renommée et bien des gens pensent que dans l'Europe entière, il n'y en a pas de plus grande. Une autre personne est là, dans l'étude, une personne moins agréable que Maître Voigt. C'est Obenreizer. Cette étude, quelque peu champêtre, ne rappelait en rien le solennel logis du notaire anglais. Elle était située dans le fond d'une cour riante et proprette et s'ouvrait sur un joli parterre de tout rempli de fleurs. Des chèvres broutaient non loin de la porte. La vache paissait si près de la maison que l'excellente bête, en avançant seulement d'une dizaine de pieds, aurait pu venir faire compagnie au clerc. Le cabinet de Maître Voigt était petit, clair et tout verni. Les murs étaient recouverts de panneaux de bois. Il ressemblait à ces chaînes chambres rustiques qu'on voit dans les boîtes de jouets d'enfants. La fenêtre, suivant la saison, était ornée de roses, d'héliandes, de roses trémières. Les abeilles de Maître Voigt bourdonnaient à travers l'étude pendant tout l'été, entrant par une fenêtre et sortant par l'autre, comme si elles eussent été tentées de faire leur miel avec le doux caractère de Maître Voigt. De temps en temps, une grande boîte à musique, placée sur la cheminée, partait en cadence sur l'ouverture de Fra Diavolo, ou bien chantait les morceaux de Guillaume Tell avec gazouillement joyeux. Survenait-il quelques clients, il fallait bien arrêter le ressort, mais l'harmonieux instrument se remettait à chanter de plus belle dès que le client était parti. « Courage, courage, mon brave garçon !» disait Maître Voig en caressant les genoux de Benzheimer d'un air paternel. « Vous allez commencer une nouvelle vie auprès de moi dans mon étude, et cela demain matin. » Benzheimer, en habit de deuil, l'air humble et soumis, mit sur son cœur une de ses mains qui tenait un mouchoir. « Ma reconnaissance est là, monsieur, » dit-il, « mais je ne trouve point de mots pour vous l'exprimer. »« Ta, ne me parlez pas de reconnaissance, » dit Maître Voigt. « Je déteste de voir un homme persécuté. Je vous ai vu souffrir. Je vous ai naturellement tendu la main. Oh, je ne suis pas encore assez vieux pour ne pas me rappeler mes jeunes années. Savez-vous bien que c'est votre père qui m'a amené mon premier client ? Il s'agissait de la moitié d'un acre de terre qui ne donnait jamais de raisin. Ne dois-je rien à mon tour à son fils ? J'ai envers lui une dette d'amitié et je m'en acquitte envers vous. Voilà qui est assez bien dit, je pense, ajouta Maître Voigt, enchanté de lui-même. Permettez-moi de récompenser mes propres mérites par une prise de tabac. Obenreizer laissa tomber son regard sur le plancher, comme s'il ne se sentait même pas digne de contempler cet honnête vieillard savourant sa prise. Non, accordez-moi une dernière grâce, monsieur, dit-il. N'agissez pas envers moi par impulsion généreuse. Jusqu'ici, vous n'avez connu que vaguement la situation où je me trouve. Eh bien, écoutez les raisons qui s'élèvent pour et contre moi avant de me prendre avec vous dans votre étude. Je veux que mon droit, votre bienveillance, soit reconnu par votre bon jugement en même temps que par votre excellent cœur. Oh, je peux lever la tête devant mes ennemis. Je peux me refaire une réputation sur les ruines de celles que j'avais autrefois et qu'on m'a ravie. Comme il vous plaira, dit maître Wagd. Vous parlez bien, mon fils, vous ferez quelque jour un bon avocat. Les détails de ma triste affaire ne sont pas bien nombreux, poursuivit Obenreizer. Mes chagrins ont commencé après la mort, par accident, de mon dernier compagnon de voyage, mon pauvre et cher ami, Monsieur Wendel. Monsieur Wendel, répéta le notaire, ah oui, c'est bien cela. J'ai souvent entendu ce nom depuis 2 mois. C'est cet infortuné anglais qui a été tué dans le Simplon, alors que vous-même, vous avez été blessé, ainsi que le témoignent les 2 cicatrices que vous portez au col et à la joue. Oui, blessé par mon propre couteau, dit Obenreizer en touchant ses marques sinistres, témoin parlant de l'horrible lutte. Oui, par votre couteau, en essayant de sauver votre ami, affirma le notaire. Bien, très bien. C'est singulier. J'ai trouvé plaisant de penser que j'ai eu autrefois un client de ce nom de Wendel. Oh, le monde est si petit, fit Obenreizer. Toutefois, il prit note intérieurement que maître Voigt avait eu, jadis, un client de ce nom. Je vous disais donc, reprit-il, qu'après la mort de mon cher compagnon de voyage, mes chagrins avaient commencé. Je me rendis à Milan. Je suis reçu avec froideur par Defraigné et compagnie. Et peu de temps après, ils me chassent. Pourquoi ? On ne m'en donne aucune raison. Je demande à ces messieurs s'ils prétendent attaquer mon honneur. Point de réponse. Mais où sont leurs preuves contre moi ? Point de réponse encore. Ce que j'en dois penser. Oh, cette fois, on me répond. Monsieur Obenreizer est libre de penser ce que bon lui semble et ce qu'il pensera n'importe guère à Defraigné et compagnie. Et voilà tout. Voilà tout, dit le notaire, et il prit une forte prise de tabac. Cela suffit-il, monsieur ? Non, vraiment, dit maître Voigt. La maison de Frenier et compagnie est de cette ville très estimée, très respectée. Mais la maison de Frenier et compagnie n'a point le droit de détruire sans raison la réputation d'un homme. Vous pourriez répondre à une accusation, mais que répondrez-vous à des gens qui ne disent rien ? Ben justement, mon cher maître, votre équité naturelle vient de définir en un mot la cruelle situation où l'on m'a placé. Et si encore ce malheur était le seul ? Mais vous savez quelles en ont été les suites. Je le sais, mon pauvre garçon, fit le notaire en remuant la tête d'un air compatissant. Votre pupille se révolte contre vous. Oh, se révolte, c'est un mot bien doux, reprit Obenreizer. Ma pupille s'est élevée avec horreur contre moi. Elle s'est soustraite à mon autorité. Et s'est réfugié avec Madame Dor chez cet homme de loi anglais, M. Bintray, qui répond à nos sommations de revenir et de se soumettre que jamais elle n'en fera rien. Oui, et qui écrit ensuite, continua le notaire en soulevant sa large tabatière pour chercher parmi ses papiers, qui écrit qu'il va venir en conférer avec moi. Il écrit cela, s'écria Obenreizer. « Eh bien, monsieur, n'ai-je pas les droits légaux ?»« Eh, mon pauvre garçon, tout le monde, à l'exception des criminels, tout le monde a son droit légal. »« Mais qui dit que je suis criminel ?» dit Obenreizer d'un air farouche. « Oh, personne ne le dit. Un peu de calme dans vos chagrins, par pitié. Si la maison d'Effraigné donnait à entendre que vous avez commis quelque action, oh !» Nous saurions alors comment nous comporter avec elle. Tout en parlant, il avait passé la lettre fort brève de Bintray à Obenreizer, qu'il avait lue et qu'il la lui rendit. Lorsque cet homme de loi anglais vous annonce qu'il va venir conférer avec vous, s'écria-t-il, cela veut dire qu'il vient pour repousser mon autorité sur Marguerite ? Oh, vous le croyez ? Oh, j'en suis sûr, je le connais. Il est opiniâtre et chicanier. Dites-moi, monsieur, si mon autorité est inattaquable jusqu'à la majorité de cette jeune fille. Ah, absolument inattaquable. Je prétends donc la garder. Oh, je l'obligerai bien à s'y soumettre. Mais, reprit Obenreizer, passant de cet emportement un grand air de douceur et de soumission, je vous devrai encore cette satisfaction, monsieur, à vous qui, avec tant de confiance, avez pris sous votre protection et à votre service un homme si cruellement outragé. Tenez-vous l'esprit tranquille, interrompit Maître Voed. Pas un mot de plus sur ce sujet et pas de remerciements. Soyez ici demain matin avant l'arrivée de l'autre clerc, entre 7 et 8 heures. Vous me trouverez dans cette chambre. Je veux vous initier moi-même à votre besogne. Maintenant, allez-vous-en. J'ai des lettres à écrire. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Congénié avec cette brusquerie amicale et satisfait de l'impression favorable qu'il avait produite sur l'esprit du vieillard, Obenreizer put réfléchir à son aise. Alors la mémoire lui revint de certaines notes qu'il avait prises mentalement durant cet entretien. Ainsi donc, Maître Voed avait eu jadis un client dont le nom était Wendell. « Je connais assez bien l'Angleterre à présent, » se disait-il, tout en faisant courir ses pensées devant lui, assis sur un banc devant le parterre. « Ce nom de Wendell y est bien rare. Jamais je n'avais rencontré personne qui le portât avant. » Il regarda, involontairement derrière lui, par-dessus son épaule. « Mais le monde est-il en effet si petit ?» que je ne puisse m'éloigner de lui même après sa mort. Il m'a confessé à ses derniers moments qu'il avait trahi la confiance d'un homme qui est mort comme lui, qui jouissait d'une fortune qui n'était pas la sienne, que je devais y songer. Et il me demandait de m'éloigner d'un pas afin qu'il me vît mieux et que ma figure lui rappelât ce souvenir. Et pourquoi ma figure ? C'est donc moi que cette confession étrange intéresse. Oh, je suis sûr de ces paroles, elles n'ont point quitté mon oreille. Et si je les rapproche de ce que me disait tout à l'heure ce vieil idiot de notaire? Et quoi que ce soit, tant mieux, si j'y trouve de quoi réparer ma fortune et ternir sa mémoire. Mais pourquoi, dans la nuit que nous avons passée ensemble à Bâle, s'est-il appesanti avec tant d'insistance sur mes premiers souvenirs? Sûrement, il avait un motif alors. Il ne put achever, car les deux plus gros béliers de Maître Voile vinrent l'assaillir à coups de tête, comme s'ils voulaient venger la réflexion irrévérencieuse qu'Obenreizer s'était permis sur le compte de leur maître. Il céda devant l'ennemi et se retira. Mais ce fut pour se promener longtemps, seul, sur les bords du lac, la tête penchée sur sa poitrine, en proie à des réflexions profondes. Le lendemain matin, entre 7 et 8 heures, il se présentait à l'étude. Il y trouva le notaire qui l'attendait en compulsant des titres et des papiers arrivés de la veille. En quelques mots bien simples, Maître Voigt le mit au courant de la routine de l'étude et des devoirs qu'il aurait à remplir. Il était 8 heures moins 5 minutes lorsque le digne homme se leva en déclarant à son nouveau clerc que cette instruction préliminaire était terminée. Ben, « Je vais vous montrer la maison et les communs, dit-il, mais il faut auparavant que je serre ces papiers. Ils me viennent des autorités municipales, je dois en prendre un grand soin. » Obenreizer devint attentif, car il voyait là une occasion de s'instruire. Il allait savoir où son patron serrait ses papiers particuliers. « Bon, ne pourrais-je pas vous épargner cette peine, monsieur, dit-il. Ne pourrais-je ranger et serrer ces papiers pour vous avec vos indications ?» Maître Voix se mit à rire sous cape. Il referma le portefeuille qui contenait ses documents précieux et le passa à Von Reiser. « Essayez, dit-il. Tous mes partis et importants sont là. » Et il lui montrait du doigt, au bout de la chambre, une lourde porte de chêne parsemée de clous. Obenreizer s'approcha, le portefeuille à la main, et regardant la porte, s'aperçut avec surprise que, de l'extérieur au moins, il n'y avait aucun moyen de l'ouvrir. Ni poignée, ni verrou, ni clé, pas même de serrure. Ben, c'est qu'il y a une seconde porte à cette chambre, dit-il. Non, 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 fit Maître Voix. Cherchez encore. Il y a certainement une fenêtre. Murée, mon ami, murée, avec des briques. La seule entrée est bien par cette porte. Est-ce que vous y renoncez? S'écria le notaire triomphant. Écoutez maintenant, mon brave garçon, et dites-moi si vous n'entendez rien à l'intérieur. Obenreizer écouta et recula, tout effrayé. « Oh, dit-il, oh, je sais de quoi il s'agit. J'ai entendu parler de cela quand j'ai des apprentis chez un horloger, Perrin Frère. Ont donc enfin terminé leur fameuse horloge de sûreté. Et c'est vous qui l'avez achetée? Oui, moi-même. C'est bien l'horloge de sûreté. Voilà, mon fils, voilà une preuve de plus de ce que les braves gens de ce pays appellent les enfantillages du Père Voix. Eh bien, laissons rire. Il n'en est pas moins vrai qu'aucun voleur au monde ne méprendra jamais ses clés. Aucun pouvoir ici-bas, un bélier, même un tonneau de poudre, ne fera jamais bouger cette porte. Ma petite sentinelle à l'intérieur, ma petite amie qui fait tic-tic-tac, m'obéit quand je lui dis « ouvre ». La porte massive n'obéira jamais qu'à ce tic-tic, et ce petit tic-tic n'obéira jamais qu'à moi. Et voilà ce qu'a imaginé ce vieil enfant de Voight à la plus grande confusion de tous les voleurs de la chrétienté. « Puis-je voir l'horloge en mouvement ?» dit Obenreizer. « Pardonnez ma curiosité, monsieur. Vous savez que j'ai passé autrefois pour un assez bon ouvrier horloger. » « Oui, vous la verrez en mouvement, » dit Maître Voile. « Quelle heure est-il ? À 8 heures moins une minute. Attention, dans une minute, vous verrez la porte s'ouvrir d'elle-même. » Une minute après, doucement, lentement, sans bruit et comme poussée par des mains invisibles, la porte s'ouvrit et laissa voir une chambre obscure. Sur 3 des côtés, des planches garnissaient les murs du haut en bas. Sur ces planches étaient rangées, en bon ordre et par étage, des boîtes de bois ornées de marqueterie, suisses et portant toutes, en lettres de couleur, des lettres fantastiques, les noms des clients de l'étude. Maître Voine alluma un flambeau. « Vous allez voir l'horloge, » dit-il avec orgueil. « Oh, je peux dire que je possède la première curiosité de l'Europe, et ce ne sont que des yeux privilégiés à qui je permets de la voir. Oh, ce privilège, je l'accorde au fils de notre excellent père. Oui, vous serez l'un des rares favorisés qui entre dans cette chambre avec moi. Voyez là, sur le mur de droite, du côté de la porte. Mais c'est une horloge ordinaire ?» s'écria Obenreizer. « Ah non, elle n'a qu'une seule aiguille. »« Non, 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 » dit Maître Voix, « ce n'est pas une horloge ordinaire. »« Non, non, cette seule aiguille tourne autour du cadran, et le point où je la mets moi-même règle l'heure à laquelle la porte doit s'ouvrir. »« Tenez, l'aiguille marque 8 heures. La porte ne s'est-elle pas ouverte à 8 heures sonnant ?» « Et est-ce qu'elle s'ouvre plus d'une fois par jour ?» demanda le jeune homme. « Plus d'une fois ?» répéta le notaire avec un air de parfait mépris pour la simplicité de son nouveau clerc. « Mais vous ne connaissez pas mon ami, Tic-Tic. Il ouvrira bien autant de fois que je lui dirai. Tout ce qu'il demande, ce sont des instructions, et voilà que je les lui donne. Regardez au-dessous du cadran. Il y a ici un demi-cercle en acier qui pénètre dans la muraille. Là est une aiguille appelée le régulateur, qui voyage tout autour du cadran suivant le caprice de mes mains. Remarquez, je vous prie, ces chiffres qui doivent me guider sur ce demi-cercle. Le chiffre 1 signifie qu'il faut ouvrir une fois dans les 24 heures. Le chiffre 2 veut dire ouvrez deux fois, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Tous les matins, je place le régulateur après avoir lu mon courrier, et quand je sais quelle sera ma besogne du jour. Aimeriez-vous à me le voir placer ? Quel jour aujourd'hui ? Mercredi. Bon. C'est la réunion des tireurs. À la carabine, je n'aurai pas grand-chose à faire, je suis sûr, d'une demi-journée de congé. On pourra bien quitter l'étude après 3 heures. Serrons d'abord le portefeuille avec les papiers de la municipalité. Bon, voilà qui est fait. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'ennuyer Tic-Tic et de lui demander d'ouvrir avant demain matin à 8 heures. Je fais reculer le régulateur jusqu'au numéro 1, je referme la porte et bien fin qu'il ouvrira avant 8 heures demain matin. Bonheiser sourit. Il avait déjà vu le côté faible de l'invention préconisée par le notaire. Il savait comment l'horloge à secret pouvait trahir la confiance de Maître Voigt et laisser ses papiers à la merci de son clerc. « Arrêtez, monsieur » cria-t-il au moment où le notaire allait fermer la porte. « Quelque chose a remué parmi les boîtes. » Maître Voigt se retourna et une seconde suffit à la main agile d'Obenreizer pour faire avancer le régulateur du chiffre 1 au chiffre 2. À moins que le notaire, regardant de nouveau le cercle d'acier, ne s'aperçût de ce changement, la porte allait s'ouvrir à 8 heures du soir et personne, Obenreizer excepté, n'en saurait rien. Ben, « je n'ai point vu remuer ces boîtes, » dit Maître Voigt. « Oh, vos chagrins, mon fils, vous ont ébranlé les nerfs. Vous avez vu l'ombre projetée par le vacillement de ma bougie. Ou bien encore quelques pauvres petits coléoptères. » Qui se promène au milieu des secrets du vieil homme de loi. Ah, écoutez, j'entends votre camarade, l'autre clerc dans l'étude. Allez, à l'ouvrage. Posez aujourd'hui la première pierre de votre nouvelle fortune. Il poussa gaiement Obenreizer hors de la chambre noire. Avant d'éteindre la lumière, il jeta un dernier regard de tendresse sur son horloge. Un regard qui ne s'arrêta pas sur le régulateur et referma la porte de chêne derrière lui. À 3 heures, l'étude était fermée. Le notaire, ses employés et ses serviteurs se rendirent au tir à la carabine. Obenreizer, pour s'excuser de les accompagner, avait fait entendre qu'il n'était point d'humeur à assister à une fête publique. Il sortit. On ne le vit plus, on pensa qu'il faisait au loin quelques promenades solitaires. À peine la maison était-elle close et déserte, qu'une garde-robe s'ouvrit, une garde-robe reluisante, qui donnait dans le cabinet reluisant du notaire. Obenreizer en sortit. Il s'approcha d'une croisée, ouvrit les volets, s'assura qu'il pourrait s'évader sans être aperçu par le jardin, rentra dans sa chambre et s'assit dans le fauteuil de Maître Voigt. Il avait 5 heures à attendre. Il tua le temps comme il put, lisant les livres et journaux épars sur la table, tantôt réfléchissant, tantôt marchant de long en large, suivant sa chère coutume. Le soleil enfin se coucha. Obenreizer referma les volets avec soin avant d'allumer la bougie. Le moment approchait. Il s'assit, montre en main, guettant la porte de chêne. À 8 heures, doucement, lentement, sans bruit, comme poussée par une main invisible, la porte s'ouvrit. Il lut, l'un après l'autre, tous les noms inscrits sur les bottes de bois. Nulle part ce qu'il cherchait. Il écarta la rangée extérieure et continua son examen. Là, les boîtes étaient plus vieilles, quelques-unes même fort endommagées. Les 4 premières portaient leur nom, écrit en français et en allemand. Le nom de la 5e était illisible. Oppenreiser la prit, l'emporta dans l'étude pour l'examiner plus à l'aise. Miracle ! Sous une couche épaisse de taches produites par la poussière et par le temps, il lut Wendel. La clé tenait par une ficelle à une boîte. Il ouvrit, tira 4 paniers détachés, les posa sur la table et commença de les parcourir. Tout à coup, ses yeux, animés par une expression d'avidité sauvage, se troublèrent. Un cruel désenchantement, une surprise mortelle, se peignit en même temps sur son visage blêmi. Il mit sa tête dans ses mains pour réfléchir, puis il se décida, prit copie de ses papiers qu'il venait de lire, les remit dans la boîte à sa place, dans la chambre noire, referma la porte de chêne, éteignit la bougie et s'esquiva par la croisée. Tandis que le voleur, le meurtrier, franchissait le mur du jardin, le notaire, accompagné d'un étranger, s'arrêtait devant sa maison, tenant sa clé dans la main. « Bon de grâce, monsieur Bintray, disait-il, ne passez pas devant chez moi sans me faire l'honneur d'y entrer. C'est presque un jour de fête dans la ville, le jour de notre tir, mais tout le monde sera de retour avant 1 heure. N'est-il pas plaisant que vous soyez justement adressé à moi pour demander le chemin de l'hôtel? Eh bien, buvons et mangeons ensemble avant que vous vous y rendiez. » « Non, non, pas ce soir, répliqua Bintray. Je vous remercie. Puis j'espérais de vous rencontrer demain matin, vers 10 heures. Bon, je serais ravi de saisir l'occasion la plus prompte de réparer, avec votre permission, le mal que vous faites à mon client offensé, repartit le notaire. « Oui, oui, dit Bintray, votre client offensé. C'est bon, mais un mot à l'oreille, monsieur White. » Il parla pendant 1 seconde à voix basse et continua sa route. Lorsque la femme de charge du notaire revint à la maison, elle le trouva debout devant la porte, immobile, tenant toujours sa clé à la main et la porte toujours fermée. Victoire d'Oppenreiser. La scène change encore une fois. Nous sommes au pied du Simplon, du côté de la Suisse. Dans l'une des tristes chambres de cette triste auberge de Briez étaient assis Bintray et Maître Voigt. Ils étaient un conseil, suivant les habitudes de leur profession, un conseil composé de 2 membres. Bintray fouillait sa boîte à dépêches. Maître Voigt regardait sans cesse une porte fermée, peinte en une certaine couleur brune, qui se proposait d'imiter l'acajou. Cette porte s'ouvrait sur la chambre voisine. L'heure n'est-elle pas arrivée? Mais ne devait-il pas être ici? Fit le notaire, qui changea la direction de son regard pour examiner une seconde porte à l'autre bout de la chambre. Celle-là était peinte en jaune et se proposait d'imiter le bois de sapin. « Oh, il est ici !» s'écria Bintray, après avoir écouté un moment. La porte jaune fut ouverte par un valet qui introduisit Oppenreiser. Il salua Maître Voir en entrant avec une familiarité qui ne causa pas peu d'embarras au notaire. Il salua Bintrae avec une politesse grave et réservée. « Pour quelle raison m'a-t-on fait venir de Neuchâtel au pied de cette montagne ? » demanda-t-il en prenant le siège que l'homme de loi anglais lui indiquait. Bon, « Votre curiosité sera complètement satisfaite avant la fin de notre entrevue, » répliqua Bintrae. « Pour le moment, voulez-vous me permettre un conseil ?»« Oui, eh bien, allons tout droit aux affaires. Je suis ici pour représenter votre nièce. » Ah oui, en d'autres termes, vous, homme de loi, vous êtes ici pour représenter une infraction à la loi. Ah, admirablement engagé, s'écria l'anglais. Si tous ceux à qui j'ai affaire étaient aussi nets que vous, que ma profession deviendrait aisée. Je suis donc ici pour représenter une infraction à la loi. Voilà votre façon à vous d'envisager les choses. Mais j'ai aussi la mienne. Et je vous dis que je suis ici pour essayer d'un compromis entre votre nièce et vous. Pour discuter un compromis, interrompit Oppenheimer, la présence des deux parties est indispensable. Je ne suis pas l'une de ces parties. La loi me donne le droit de contrôler les actions de ma nièce jusqu'à sa majorité. Or, elle n'est pas majeure. C'est mon autorité que je veux. En ce moment, Maître Voix essaya de parler. Bintrae, de l'air de compatissante indulgence qu'on emploie envers les enfants gâtés, lui imposa silence. « Non, dit Niami, non, pas un mot. Ne vous agitez pas vainement, laissez-moi faire. » Et se retournant vers Oppenheimer, il s'adressa de nouveau à lui. « Je ne puis rien trouver qui vous soit comparable, monsieur, » dit-il, « rien que le granit. Encore le granit même, s'use-t-il par l'effet du temps. » « De grâce, dans l'intérêt de la paix et du repos, au nom de votre dignité, laissez-vous amollir un peu. Ah, si vous vouliez seulement déléguer votre autorité à une personne que je connais, vous pourriez être bien sûr que cette personne ne perdrait jamais, ni jour ni nuit, votre nièce de vue. Vous perdez votre temps et le mien, interrompit Oppenheimer. Si ma nièce n'est pas rendue à mon autorité sous 8 jours, j'invoquerai la loi. Si vous résistez à la loi, je saurai bien la prendre de force. En même temps, il se dressait de toute sa taille. Maître Voix regarda encore une fois autour de lui, vers la porte brune. « Ayez pitié de cette pauvre jeune fille, » reprit Bintrae avec insistance. « Rappelez-vous qu'elle a tout récemment perdu son fiancé. Il est mort d'une mort affreuse. Rien ne pourra donc vous toucher ?»« Rien. » Bintrae se leva à son tour et regarda Maître Voix. La main du notaire qui s'appuyait sur la table commença de trembler. Ses yeux demeurèrent fixés comme par une sorte de fascination irrésistible sur la porte brune. Oppenheimer, qui observait tout avec méfiance, suivit la direction de ce regard. « Mais il y a une personne qui nous écoute !» s'écria-t-il. « Non, il y en a deux, » fit Bintrae. « Qui sont-elles ? Vous allez les voir. » Il éleva la voix et ne dit qu'un mot, un mot bien commun, qui se trouve généralement, journellement, sur les lèvres de tout le monde. « Entrez !» La porte brune s'ouvrit. Soutenue par Marguerite, pâle, le bras droit en écharpe, Wendel se trouva debout devant son meurtrier. Un fantôme sortant de la tombe. Durant le silence qui suivit, le chant d'un oiseau en cage qui gazouillait en bas dans la cour fut le seul bruit qu'on entendit dans cette chambre. Maître Voix toucha le bras de Vintray et lui montra Obenreizer. « Regardez-le, dit-il tout bas. Cette émotion terrible avait paralysé le misérable. Son visage était celui d'un cadavre, et sur sa joue pâle, un seul point gardait la couleur de la vie. C'était cette raie pourpre et sanguinolente, la cicatrice de la blessure que sa victime lui avait faite au bord du gouffre en se débattant contre lui. Sans voix, sans haleine, immobile, stupide, on y dit que, à l'aspect de Vendal, la mort à laquelle il avait condamné son ennemi venait de le frapper lui-même. « Quelqu'un devrait lui parler, » dit Maître Voix. « Dois-je le faire ?» Même en ce moment, Bintray s'opiniâtra à faire taire le repossesseur de l'horloge à secret, l'homme de loi anglais entendant se réserver entièrement la direction de cette affaire. Il fit signe à Marguerite et à Vendal de sortir. « Le but de votre apparition soudaine est rempli, » dit-il à ce dernier. « Éloignez-vous, Kant, à présent. Votre absence aidera sans doute M. Obenreizer à recouvrer le sens et la voix qu'il a perdue. » Vintray avait deviné juste. À peine les deux fiancés eurent-ils disparu, à peine la porte brune se fut-elle refermée derrière eux, qu'Obenreizer fit entendre un profond soupir. Il chercha une chaise autour de lui et s'y laissa tomber lourdement. « Donnez-lui le temps de se remettre, » dit Maître Voy. « Pas du tout, » dit Vintray. « Je ne sais l'usage qu'il ferait de ce temps si je le lui accordais. »« Monsieur, » reprit-il en se retournant vers Obenreizer, « je me dois à moi-même. Remarquez bien que je n'admets pas que je vous doive quelque chose à vous, d'expliquer mon intervention dans tout ceci et de vous apprendre ce qui a été fait d'après mes avis sous ma responsabilité entière. Êtes-vous en état de m'écouter ?
Oui, je vous écoute.
Rappelez-vous l'époque à laquelle vous vous êtes mis en route pour la Suisse avec Vendel, commença Vintray. À peine 24 heures s'étaient-elles écoulées depuis votre départ, que votre nièce commettait une imprudence. Avec toute votre pénétration même, vous n'auriez pu la prévoir. Elle suivait son fiancé dans ce voyage, sans demander avis ni permission à qui que ce fût au monde, et sans autre compagnon pour la protéger en route qu'un garçon de cave servi de Vendel. « Mais pourquoi ?» s'écria Obenreizer. « Mais d'où lui était venue cette pensée de nous suivre et comment avait-elle pris cet homme pour guide ?»« Je vais vous le dire, » répliqua froidement Bintray. « Parce qu'elle soupçonnait qu'une querelle très sérieuse avait dû avoir lieu entre vous et Vendel et qu'on la lui avait cachée. Parce qu'elle vous croyait, et avec raison, capable de servir vos intérêts et de satisfaire vos ressentiments par un crime. Aussitôt après votre départ, elle s'adressa à ce Joy Ladle, que vous connaissez, afin de savoir ce qui s'était passé entre vous et son maître. Un accident fort ordinaire arrivé à Vendel dans ses caves avait éveillé chez cet homme une superstition ridicule. Il était frappé de l'idée que M. Vendel mourrait de mort violente. Votre nièce lui arracha cette prédiction insensée qui porta ses propres craintes à leur comble. Aussitôt, Joël Edel eut conscience du mal qu'il venait de faire. Il se condamna lui-même à la seule expiation qu'il pouvait s'offrir. « Si mon maître est en danger, dit-il à Mademoiselle Marguerite, il a de bon devoir d'aller à son secours et encore plus de veiller sur vous. » Ils se mirent donc en route tous les deux. C'est la première fois, monsieur Obenreizer, qu'une superstition a servi à quelque chose. Cette terreur qui paraissait sans fondement a décidé votre nièce à entreprendre ce voyage et l'a conduite à sauver la vie de celui qu'elle aimait. Jusqu'ici, vous me comprenez? Oui, jusqu'ici, je vous comprends. La première connaissance de votre crime, poursuivit l'Anglais, me parvint par une lettre de Mademoiselle Marguerite, et tout ce qu'il me reste à vous faire savoir, c'est que son amour et son courage surent retrouver votre victime. Elle mit toute son énergie à rappeler M. Wendel à la vie. Tandis qu'il était mourant, soigné par elle à Biarritz, elle m'écrivait pour me prier de me rendre auprès de lui. Avant mon départ, j'avertis Mme Nord de ce que je venais d'apprendre. Je lui dis que Mademoiselle Obenreizer était en sûreté et que je connaissais le lieu de sa retraite. La bonne dame, à son tour, m'informa qu'une lettre était arrivée pour votre nièce et qu'elle avait reconnu votre écriture. Je m'en emparai et pris des arrangements pour que toutes celles qui suivraient me fussent remises. Arrivé à Biarritz, je trouvais M. Wendel hors de danger et je m'employai tout de suite à hâter le jour où je pourrais régler enfin mes comptes avec vous. Je savais que Defrénier et compagnie s'étaient séparés de vous sur de certains soupçons. Je le savais mieux que personne, car ils n'ont agi que sur des renseignements particuliers que je leur avais fait passer. Vous ayant donc dépouillé tout d'abord de votre honorabilité menteuse, il me restait à vous arracher votre autorité sur Mademoiselle Marguerite. Pour atteindre ce but, je n'ai pas connu de scrupules. C'est en parfaite sûreté de conscience que j'ai creusé le piège sous vos pas et dans l'ombre. Et faut-il vous l'avouer, j'ai même éprouvé une certaine satisfaction professionnelle à vous battre avec vos propres armes. Par mon ordre, on vous a soigneusement caché, jusqu'à ce jour, tout ce qui s'était passé depuis 2 mois. C'est ma main, invisible mais toujours active, qui vous a amené ici par degrés. Je ne voyais qu'un seul moyen de faire tomber d'un seul coup cette assurance diabolique qui jusqu'à présent a fait de vous un homme redoutable. Mais ce moyen, je l'ai employé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire ensemble, une seule, monsieur Obenreizer. Se disant, Mintray tirait de son sac à dépêche 2 feuilles de papier couvertes de caractères pressés où l'on reconnaissait le grimoire légal. « Voulez-vous rendre la liberté à votre nièce ?» reprit-il. « Vous avez commis une tentative d'homicide, un faux et un vol. Nous en avons les preuves irrécusables. Si vous subissez une condamnation infamante, vous savez aussi bien que moi ce qu'il adviendra de votre autorité de tuteur. Personnellement, j'aurais mieux aimé le parti le plus violent pour nous débarrasser de vous, mais on a fait valoir à mes yeux 1000 considérations auxquelles je ne saurais point résister. Donc, j'avais bien raison de vous dire que cette entrevue devait se terminer par un compromis. Signez cet acte par lequel vous vous engagez à ne plus prétendre à aucun pouvoir sur Mademoiselle Marguerite, à ne vous jamais montrer ni en Angleterre ni en Suisse, et je vous signerai à mon tour un engagement qui vous garantira contre toute poursuite judiciaire. Signé. Obenreizer prit la plume et signa. Il reçut à son tour l'engagement dont lui avait parlé Mintray. Après quoi, il se leva, mais sans faire aucun mouvement pour quitter la chambre. Il demeurait debout, regardant Maître Voix avec un sourire étrange. Une lueur sombre jaillissait de son ciel nuageux. « Qu'attendez-vous ? » dit Mintray. Obenreizer montra du doigt la porte brune. « Rappelez-les, dit-il, j'ai quelque chose à dire en leur présence, avant de me retirer. »« Ma présence à bras ne suffit-elle pas à vous satisfaire ? » riposta l'Anglais. Je refuse de les rappeler.
Owenreiser se tourna vers Maître Voix. Vous souvenez-vous d'avoir eu jadis un client anglais du nom de Wendell ? Lui demanda-t-il.
Eh bien, répondit le notaire, qu'est-ce que ce souvenir a de commun avec les choses qui nous occupent ?
Maître Voix, votre horloge de sûreté vous a trahi.
Que voulez-vous dire ?
J'ai lu les lettres et certificats contenus dans la boîte de votre client, et j'en ai pris des copies.
Ah, ces copies, je les ai sur moi, monsieur Bintray. Cela vous paraîtrait-il enfin une raison suffisante de rappeler vos amis ?
Durant quelques instants, le notaire regarda de tous côtés. Placé entre Obenreizer et Bintray, il ne savait auquel entendre, car il était plongé dans un étonnement qui lui enlevait l'exercice de la raison. Enfin, il se remit, il attira son confrère dans un coin de la chambre et lui dit quelques mots. Le visage de Bintray, après avoir réfléchi pendant un moment, comme un miroir, la surprise peinte sur celui de Maître Voix, changea subitement d'expression. Avec l'ardeur d'un jeune homme, il s'élança vers la porte brune, disparut et revint aussitôt, suivi de Wendell et de Marguerite.
« Mais les voici !» cria-t-il à Obenreizer. « À vous la dernière manche de la partie, allez, jouez serré !»«
Avant d'abdiquer comme tuteur mon autorité sur cette jeune fille, » dit Obenreizer, mon devoir me commande de lui révéler un secret auquel elle est intéressée. Je ne réclame point son attention à la légère, et je ne lui demande point, ni aux autres personnes présentes, d'en croire mon récit sur parole. J'ai en main des preuves écrites. Ce sont des copies d'originaux, dont l'authenticité pourra être attestée par Maître Voix lui-même. Faites bien entrer cela dans son esprit, et reportons-nous ensemble à une époque, oh, déjà bien vieille, au mois de février de l'année 1836.
Remarquez cette date, Wendell, s'écria Bintray.
Ma première preuve, continua Obenreizer, tirant un papier de son portefeuille, est la copie d'une lettre écrite par une dame anglaise, une femme mariée à sa sœur qui est veuve. Je tairai le nom de cette dame pour le moment. Celui de la personne à laquelle cette lettre est adressée est Madame Jane Anna Miller, à Groombridge, Wells, Angleterre. Wendell tressaillit. Il allait parler. Bintray l'arrêta, comme il avait fait tant de fois arrêter Maître Roy depuis une heure. « Non, non, fit l'opiniâtre anglais, rapportez-vous-en à moi. »
« Il est inutile, reprit Obenreizer, de vous fatiguer de la première moitié de cette lettre et je vais vous en donner la substance en deux mots. »
Voici donc quelle était la situation de la personne qui a écrit ces lignes. Elle avait longtemps habité la Suisse avec son mari, que sa santé obligeait d'y vivre. Ils étaient alors sur le point de se rendre à une nouvelle résidence qu'ils avaient choisie. Il devait y être installé sous 8 jours et annonçait à Madame Miller qu'il pourrait les recevoir dans 2 semaines. Cela dit, l'auteur de la lettre entre alors dans un détail domestique très important. Privée de la joie d'avoir des enfants et n'ayant plus, après tant d'années, aucune espérance à ce sujet, ils sont seuls, ils sentent le besoin de mettre un intérêt dans leur vie, et ils ont résolu d'adopter un jeune garçon. Je commence à lire, mot pour mot. Voulez-vous nous aider, chère sœur, dans la réalisation de notre projet ? En notre qualité d'anglais, nous désirons adopter un enfant anglais. Cet enfant, on peut l'aller chercher, je crois, à l'hospice des enfants trouvés. L'homme d'affaires de mon mari à Londres vous indiquera les moyens à prendre. Je vous laisse la liberté du choix aux seules conditions que je vais vous dire. L'enfant sera âgé d'un an au moins, et ce sera un garçon. Pardonnez-moi la peine que je vais vous donner, et amenez-nous l'enfant avec les vôtres quand vous viendrez nous rejoindre à Neuchâtel. Encore un mot qui vous fera connaître les intentions de mon mari en cette circonstance délicate. Il veut épargner à l'enfant qui deviendra le nôtre toute humiliation dans l'avenir et surtout ne jamais l'exposer à la perte du respect de soi-même qui pourrait résulter pour lui de la connaissance de sa véritable origine. Il portera le nom de mon mari et sera élevé dans la croyance qu'il est réellement son fils. L'héritage que nous laisserons lui sera assuré, non seulement d'après les lois anglaises, mais aussi d'après les lois de la Suisse. Nous avons vécu si longtemps dans ce dernier pays que nous pouvons presque le considérer comme le nôtre. Il y a donc à prendre des précautions pour prévenir toute révélation postérieure qui pourrait être faite à l'hospice des enfants trouvés. Or, notre nom est assez rare en Angleterre, et si nous intervenons et sommes inscrits comme adoptants sur les registres de l'hospice, il y aura certainement bien des choses à craindre. Votre nom à vous, cher, est porté en Angleterre par des milliers de personnes de toute classe et de tout rang, et si vous vouliez consentir à paraître seul sur ces registres, le secret serait assuré. Nous changeons de séjour et nous nous rendons dans une partie de la Suisse où notre situation et notre manière de vivre sont inconnues. Vous ferez bien, je crois, de prendre une gouvernante nouvelle lorsque vous viendrez nous voir. Avec toutes ces précautions, l'enfant passera pour être le mien, que j'aurai laissé en Angleterre et qui me sera ramené par les soins de ma sœur. La seule servante que nous gardions avec nous, en changeant de demeure, est ma femme de chambre, en qui je peux avoir une confiance sans réserve. Quant aux hommes d'affaires, tant d'Angleterre que de Suisse, ils savent par état garder un secret, et nous pouvons être tranquilles de ce côté-là. Ainsi, voilà toute notre petite conspiration dévoilée devant vos yeux. Répondez-moi par le retour du courrier. Mille amitiés et dites-moi que vous suivrez de près votre lettre. Persistez-vous à cacher le nom de sa personne qui a écrit ces lignes ? Demanda Wendell. Je le garde pour le bouquet, répondit insolemment Amelreiser. Et je passe ma seconde preuve. Un simple chiffon de papier, cette fois, comme vous voyez. C'est une note remise à l'avoué suisse qui a rédigé le document relatif à cette affaire. Je viens de le lire, en voici les termes. Adopté à l'Office des enfants trouvés de Londres le 3 mars 1836, un enfant mâle du nom de Walter Wilding. Nom et situation de l'adoptant, Madame Jane Anna Miller, veuve, agissant dans cela pour sa sœur, mariée et domiciliée en Suisse. Patience, dit Obenreizer, en voyant Wendell qui, malgré les efforts de Bindray, se préparait encore à prendre la parole. « Je ne cacherai plus bien longtemps le nom que vous désirez connaître. Mais voici encore deux autres petits chiffons de papier. Voici ma troisième preuve. Certificat du docteur Gans à Neuchâtel, daté de juillet 1838. Le docteur certifie, vous direz tout à l'heure, d'abord qu'il a soigné l'enfant adopté dans toutes les maladies du jeune âge, ensuite que 3 mois avant la date de ce certificat même, le gentleman adoptant était mort, qu'à cette date juste, la veuve de ce gentleman, accompagnée de sa femme de chambre, quittait Neuchâtel pour s'en retourner en Angleterre. Un anneau encore à ajouter à toutes ces chaînes, reprit Obenreizer, après une courte pause, et mon devoir sera rempli. La femme de chambre en question demeura au service de cette dame jusqu'à la mort de celle-ci, il n'y a que peu d'années. Elle pourrait donc affirmer l'identité de l'adopté qu'elle a suivi depuis son enfance jusqu'à l'âge viril. Voilà son adresse en Angleterre. Et ceci, monsieur Wendell, est ma quatrième et dernière preuve. Mais pourquoi vous adressez à moi? Dit Wendell, tandis que Benzheimer jetait l'adresse écrite sur la table. Parce que vous êtes cet homme. Parce que si ma nièce vous épouse, elle épousera un bâtard élevé par la charité publique. Elle épousera un imposteur sans nom, sans famille, qui fait le personnage de gentleman qui n'est qu'un masque. « Bravo !» s'écria Bintrey, « admirablement engagé, monsieur Oppenheiser. Je n'ajouterai qu'un mot à ce que vous venez de dire. Votre nièce épouse, grâce à vos efforts et à votre heureuse intervention, un homme qui hérite d'une belle fortune, Georges Wendell, comme co-exécuteur testamentaire. Souffrez que je me félicite en même temps que vous. Le dernier vœu terrestre de notre pauvre ami est accompli. Nous avons trouvé le véritable Walter Wilding. Ah, bah, c'est M. Oberreiser lui-même qui le dit. Vous êtes cet homme. » Ces derniers mots arrivèrent sans qu'il les entendît à l'oreille de Wendell. En ce moment, il n'avait conscience que d'une sensation unique et délicieuse. Il n'écoutait qu'une voix, celle de Marguerite, qui disait « Georges, je ne vous ai jamais tant aimé que je vous aime. » Le rideau tombe. C'est le premier jour de mai. On se prépare à des réjouissances sans exemple au carrefour des éclopés. Les cheminées fument, la salle à manger patriarcale est tapissée de guirlandes de fleurs. Madame Goldstraw, la respectable femme de charge, est dans le feu du combat. C'est aujourd'hui que le jeune maître du logis épouse au loin sa belle fiancée. Au loin, bien au loin, en Suisse, dans la petite ville de Brietz, au pied du Simplon, tout près de ce gouffre terrible, d'où l'ont retiré vivant son courage et son amour. Les cloches à Brietz sonnent à toute volée. Les rues sont pavoisées de drapeaux et retentissent du bruit de la musique et des carabines. Des tonneaux de vin ornés de banderoles laissent couler la précieuse liqueur sous une tente qu'on a dressée devant l'auberge, et l'on y prépare un banquet où tout le monde viendra s'asseoir. Pourquoi ces cloches? Pourquoi ces bannières? Ces draperies aux fenêtres, ces coups de feu et cet orchestre? Pourquoi la petite ville est-elle en liesse? Pourquoi le cœur de ces rustiques habitants est-il en joie? La nuit dernière, la tempête a mugi. Les montagnes sont de nouveau couvertes de neige. Mais le soleil brille, l'air est frais et embaumé. Les clochers de zinc des villages dans la vallée ressemblent à de l'argent bruni. La chaîne des Alpes, aussi loin qu'on peut l'embrasser du regard, est un long nuage blanc dans le ciel bleu. Par les soins des bonnes gens de Brietz, un arc de triomphe en feuillage s'élève au travers de la rue que les nouveaux mariés vont suivre en revenant de l'église. On y lit d'un côté cette inscription « Honneur et amour » et de l'autre « À Marguerite Wendell ». C'est qu'ils sont fiers de leurs jeunes et belles compatriotes. C'est qu'ils en sont enthousiastes. Ils veulent la saluer par le nom de son mari au sortir de l'église. C'est une surprise qu'ils lui ont ménagée. Aussi vont-ils la conduire au temple par des rues tortueuses qui passent derrière les maisons. Voilà sans doute un projet qui n'était pas difficile à accomplir dans cette tortueuse ville de Brietz. Ainsi tout est prêt. C'est à pied qu'on se rendra à l'église et l'on reviendra de même. Dans la plus belle chambre de l'auberge ornée pour la fête, les fiancés, le notaire de Neuchâtel, M. Bintrey, Mme Dor et un certain compagnon, gros et grand, populaire sous le nom de Monsieur Zoelladel était réunie. En vérité, Madame Doer était gantée d'une paire de gants qui étaient à elle. Elle ne levait plus les bras au ciel, mais elle les avait jetés tous les deux autour du cou de la mariée. Le reste de l'assistance devait se contenter de la vue de son large dos jusqu'à la fin. « Mon amour, ma beauté !» soupira la bonne dame. « Pardonnez-moi d'avoir jamais pu être sa chatte. » « Sa chatte, Madame Dor ?» répéta Marguerite au comble de l'étonnement. « Eh oui, ma chatte, ma mignonne, car j'étais chargée de surveiller la charmante petite souris. » Et cette explication originale de son ancienne soumission à Obenreizer ne sortit de la bouche de Madame Dor qu'avec un cruel sanglot. « Madame Dor, vous avez toujours été notre meilleure amie. » « Georges, dites-le-lui donc que nous la regardons comme notre amie. »« Sûrement, ma chérie, que serions-nous devenus sans elle ?»« Vous êtes tous les deux si généreux et si bons !» s'écria la vieille Suissesse repentante. Puis revenant à son idée, « c'est égal, dit-elle, j'ai été sa chatte. »« Oui, mais comme la chatte des contes de fées, ma bonne Madame Dor. » dit Vendale en l'embrassant sur les deux joues. « Vous êtes une femme loyale et franche, et la sympathie que vous aviez pour les deux pauvres amoureux au supplice a été aussi franche que votre cœur. Ah, je ne veux en aucune façon priver Madame Dor de sa part d'embrassade, » fit Bintrey en tirant sa montre. « Je ne trouve pas mauvais de vous voir réunis tous trois dans un coin comme les trois grâces. Je fais simplement la remarque que l'heure est venue et que nous pourrions nous mettre en marche. Quel est votre sentiment à ce sujet, monsieur Ladle ?»« Limpide, monsieur, » répliqua Joe avec une grimace tout aimable. « C'est étonnant, monsieur, comme je me sens limpide dans tout mon être depuis que j'ai vécu quelques semaines sur la terre. Jamais je n'y avais pensé si longtemps et cela m'a fait beaucoup de bien. Par exemple, je conviens que si au carrefour des éclopés, je me trouve quelquefois un peu trop au-dessous de la terre. Au sommet du simplon, je me trouvais un peu trop au-dessus. J'ai rencontré le milieu ici, monsieur. Là, si j'avais jamais pris la vie gaiement, depuis que je suis au monde, c'est bien aujourd'hui. Et je compte le montrer en portant certains toasts à table. Voilà mon toast. Que Dieu les bénisse tous les deux. J'appuierai le toast, fit Bintrey. Et maintenant, monsieur Walt, à vous deux, comme de vieux amis, bras dessous, marchons ensemble. » La foule attendait aux portes, on prit gaiement le chemin de l'église, et cet heureux mariage fut accompli. La cérémonie n'était point encore terminée quand on vint du dehors quérir le notaire. Il sort, et bientôt de retour, il se tient debout derrière Vendel, qu'il touche à l'épaule. « Allez à la porte de côté, dit-il, et seul, confiez-moi à votre femme pour un moment. » Sur le seuil de cette porte se tenaient les deux guides de l'hospice, couverts de neige, exténués par une longue route. Ils souhaitèrent toutes sortes de bonheur à Vendel, puis chacun d'eux mit sa forte main sur l'épaule du jeune homme, et le premier lui dit « La litière est ici, la même dans laquelle on vous a transporté à l'hospice, la même. »« La litière ici ?» fit Vendel. « Et pourquoi ?» « Silence. Pour l'amour de votre femme, votre compagnon de ce jour-là, que lui est-il arrivé ? » Le guide regarda son camarade comme pour le sommer de lui donner du courage. « Il est là, » dit-il. « Pendant quelques jours, » reprit le guide, « il a vécu au premier refuge. Le temps était alternativement beau et mauvais. » « Eh bien, » dit Vendel, « il est arrivé à notre hospice avant-hier. et s'étant réconforté par un bon sommeil, par terre, devant le feu, enveloppé dans son manteau, il se détermina à partir avant le jour pour continuer sa route jusqu'à l'hospice voisin. Cette partie du chemin lui inspirait de grandes craintes. Il pensait qu'elle serait plus mauvaise le lendemain, achevée. Mais il partit seul. Il avait déjà dépassé la galerie lorsqu'une avalanche, semblable à celle qui tomba derrière vous près du pont de Gauthier. Ah, cette avalanche l'a tué? Oui, nous l'avons trouvé broyé, brisé en morceaux. Mais, monsieur, pour l'amour de votre femme, nous l'avons apporté ici sur la litière pour qu'on l'ensevelisse. Il faut que nous montions la rue et pourtant elle ne doit pas le voir, elle. Ce serait une malédiction que de faire passer la litière sous l'arcade de verdure avant qu'elle y ait passé. Nous allons la déposer sur une pierre au coin de la seconde rue, à droite. Et lorsque vous descendrez de l'église, nous nous placerons devant. Mais tâchez que votre femme ne la voie point, ou qu'elle ne tourne pas la tête quand elle sera passée. Allez, ne perdez point de temps, elle pourrait s'inquiéter de votre absence. Allez. Mendel retourna vers sa femme. Ce joyeux cortège les attendait à la grande porte de l'église. Ils descendirent la rue au milieu du carillon des cloches, des décharges de mousqueterie, des drapeaux qui s'agitaient, des instruments de cuivre qui faisaient rage, des acclamations, des cris, des rires et des pleurs de toute la ville, enivrés du plaisir de les voir heureux. Toutes les têtes se découvraient sur leur passage, les enfants leur envoyaient des baisers. « Que la bénédiction du ciel descende sur la jeune fille courageuse !» s'écriait-on de toutes parts. « Voyez comme elle s'avance noblement dans sa jeunesse et dans sa beauté !» au bras de celui à qui elle a sauvé la vie. Lorsqu'on arriva au coin de la seconde rue à droite, Vendel se pencha à son oreille et lui parla longuement tout bas. Lorsqu'ils eurent franchi le coin sinistre, Vendel, pressant le bras de Marguerite sous le sien, lui dit « Pour des raisons que je vous ferai connaître plus tard, ne vous retournez pas, ma chérie. » Mais lui, il tourna la tête. Il vit la litière et ses porteurs qui passaient sous l'arc triomphal. Et il continua de marcher avec Marguerite et tout le cortège de la noce, descendant vers la riante vallée.